plus de puissance.
Oui, monsieur.
Mesdames, messieurs.
Je suis une voix.
Je vais à la rencontre de la nature.
Je suis le sillon à suspense.
On peut se demander qui de l'homme ou de la nature est musicien.
J'ai utilisé des sons d'animaux pour créer des rythmes.
France Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
Avec un ensemble d'instruments électroniques et avec le sourire.
Bonjour à toutes et à tous. Troisième épisode de notre série musicale d'été, l'électro au naturel. Après les règnes végétal et animal, nous nous intéressons aujourd'hui à ce que les musiques électroniques font du règne vocal. Notre voix est sans doute l'une des preuves les plus manifestes que nous sommes en vie. Elle porte en elle notre rapport au monde et fait résonner notre être parmi les autres êtres. Véhicule vibrant de la parole et du chant, la voix est un phénomène complexe et débordant qui entretient un rapport tout aussi complexe et débordant à l'enregistrement, qu'il soit documentaire ou musical. Artistes et ingénieurs du son ont certes voulu la préserver, en respecter la pureté, l'authenticité. Mais bien souvent, leurs expérimentations techniques l'ont aussi profondément altérée jusqu'à la rendre méconnaissable. Certains traitements vocaux ne se contentent que de subtilement maquiller la voix. Mais dans d'autres cas, toujours plus nombreux, ces traitements s'apparentent davantage à des opérations de chirurgie esthétique. Et entre l'écho qui ornait le baryton d'Elvis Presley et les voix mutantes du Windowlicker d'Aphex Twin que nous entendons en ce moment, il y a évidemment un océan. Sauf qu'il s'agit toujours d'extraire une source de sa réalité matérielle pour l'isoler dans le monde fictionnel du studio. Et de ce laboratoire, où la voix n'est plus qu'une matière première, sortent parfois des créatures vocales augmentées qui révèlent des détails et des accents jusqu'ici ignorés. Il ne s'agira donc pas pour nous aujourd'hui de condamner l'artificialité des voix traitées par l'électronique, mais plutôt de les examiner sous un angle purement musical et esthétique. Que nous chantent les machines, du vocodeur à l'autotune en passant par les divas découpées de la disco et de la house, c'est ce que nous allons découvrir.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Nous venons de parler d'Elvis Presley et de l'écho que son producteur Sam Phillips a fait appliquer à sa voix dès ses premiers singles. Un écho spécifique d'ailleurs qu'on appelle slapback écho et par lequel le patron des studios Sun de Memphis cherchait à ajouter, dit-on, du réalisme à la performance de son poulain. Un réalisme tout de même singulier vu l'aura un peu irréelle qu'il donne au timbre elvisien, comme nous l'entendons ici. Jusqu'à la fin des années 60, la plupart des voix de la pop musique seront ainsi transformées à des degrés variables par divers effets. Des effets qui étaient indifféremment utilisés sur d'autres instruments comme la guitare ou la batterie. Et puis, au tournant des années 70, quelques artistes et producteurs découvrent un appareil spécialement fabriqué pour traiter le signal vocal. C'est le vocodeur. Un appareil qui, au départ, était pourtant conçu pour les télécommunications, mais que ces pionniers vont s'approprier afin de créer des entités vocales inouïes. Raccourci de Voice et de Encoder, le vocodeur existait déjà depuis un demi-siècle lorsque les membres de Kraftwerk ont commencé à l'utiliser, comme ici sur le morceau Numbers. L'appareil a été inventé dans les années 1920 par Homer Dudley, ingénieur chez Bell. Dudley travaillait sur les technologies téléphoniques et cherchait à obtenir un signal moins lourd en données afin d'occuper moins de bandes passantes. Le dispositif qu'il élabora consistait à repérer les fréquences essentielles sur le spectre d'une voix. Le principe était de ne retenir que d'une phrase que les éléments strictement porteurs de sens afin de les convertir en un code plus léger à transmettre via une première machine de cryptage. À l'autre bout de la ligne, un technicien recevait le message ainsi encodé qui décodait fastidieusement à l'aide d'une autre machine. Le propos ainsi réceptionné et formulé était réduit de tout le superflu, mais néanmoins intelligible et caractérisé par ce son robotique aujourd'hui bien connu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'invention de Homer Dudley intéresse les militaires alliés. Les opérateurs de télécommunications des armées américaines et anglaises l'intègrent à un plus vaste système, le SIGSALI, lui-même conçu par les laboratoires Bell. Il sert à crypter cette fois-ci non plus de simples messages, mais des conversations longue distance entre les hauts gradés et même entre Roosevelt et Churchill. L'ennemi peut bien intercepter l'entretien sur les ondes, il n'en tirera rien puisqu'il ne dispose pas des appareils d'encodage et de décodage utilisés de chaque côté par les alliés. Et puis, après 1945, le vocodeur tombe progressivement en désuétude dans le secteur des télécoms. En revanche, il va peu à peu attiser la curiosité de quelques chercheurs en musique électronique, un domaine encore embryonnaire. Il faut patienter jusqu'en 1968 pour que Robert Moog, célèbre luthier électronique, fabrique son propre vocodeur. La même année, le musicien et inventeur canadien Bruce Hack fait de même et un an plus tard publie l'album The Electronic Record for Children où l'on entend pour la première fois une voix vocoderisée. Mais c'est en 1971 que ce traitement si étrange se fait connaître du grand public grâce à la BO d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, une BO signée par la compositrice Wendy Carlos dont nous entendions ici la marche inspirée de la 9e de Beethoven. Il faut relever au passage un détail pas si anodin, c'est qu'à l'époque d'Orange Mécanique, Wendy Carlos s'appelait encore Walter Carlos. Alors certes, la voix vocoderisée que nous entendez ici n'est pas la sienne, mais celle de son amie et consœur Rachel Elkind. Mais tout de même, cette femme trans voyait sans doute dans le vocodeur un salutaire outil de transformation d'identité. Au-delà de son cas particulier, on observera vite que l'invention de Dudley, suivie par d'autres outils de modification vocale, sera souvent plébiscitée par des artistes désireux d'estomper les caractères genrés de leur propre voix, tels que Laurie Anderson bien sûr, mais aussi Björk ou Anne Steele. Vers la fin des années 70, le vocodeur devient plus accessible en studio et se retrouve donc très présent sur le marché du disque. On l'entend logiquement dans les tubes des Allemands de Kraftwerk, dont le parti pris post-humain va de pair avec cet appareil qui désincarne la voix. Mais le vocodeur est aussi prisé d'artistes moins portés vers les robots. On voit ainsi Stevie Wonder s'en servir, mais aussi le rustique Neil Young sur son album Trans en 1982, dont nous écoutons ici un extrait. Dans le cas de ces deux chanteurs au timbre si reconnaissable, l'idée n'est pas tant d'évacuer leur humanité vocale, mais d'en transformer la dynamique ou la tonalité. 40 ans plus tôt, le vocodeur permettait de réduire l'expressivité, pour faciliter la communication. Il est désormais devenu un moyen pour les artistes d'explorer d'autres contrées d'expression dans l'espoir de renouveler un répertoire naturel potentiellement lassant. Et puis, le hip-hop, alors à ses débuts, va vivre l'un de ses premiers succès en combinant deux samples de Kraftwerk avec un vocodeur, c'est Planet Rock d'Africa Bambaataa and the Soul Sonic Force.
Party people, party people, can you get funky? So silent force, can yo get funky? The Zulu Nation, can yo get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That bop just getting so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me.
It's time to chase your dreams. How about the seats? Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul.
Au-delà d'Africa Bambaataa, le vocodeur va connaître un vif engouement à la naissance du hip-hop. Des artistes new-yorkais comme Nucleus, Mentronix ou le Johnson Crew vont lui donner ses lettres de noblesse, définissant le son électro-funk qui caractérise cette première phase de l'histoire du genre. Mais vers la fin des années 80, les rappeurs se lassent de ces ambiances spatiales et se tournent vers des sons plus rugueux, plus bruts. Et bientôt, plus personne ne se sert du vocodeur. Il faudra attendre deux décennies pour qu'un nouvel outil de modification vocale se fasse adopter par la scène hip-hop, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans cette émission. En parallèle de l'explosion du rap, New York vit à la même époque une autre révolution musicale, celle de la disco. Genre trop souvent réduit à ses rengaines de camping, la disco est pourtant un vrai terrain d'expérimentation pour les ingénieurs du son et les producteurs new-yorkais. C'est l'ère du remix, ou plutôt de ce qu'on appelle encore un edit, c'est-à-dire littéralement un montage en anglais. Les différentes pistes, et notamment les pistes vocales, font l'objet de multiples manipulations en studio. Plusieurs prises distinctes d'une même phrase ou plusieurs moments isolés d'un même morceau peuvent ainsi se voir réassemblés dans un ordre plus adapté aux besoins des danseurs et aux exigences du DJ qui mixera les morceaux en club. Assis derrière leur console, des éditeurs comme Tom Moulton, Larry Levan, François Kevorkian ou Walter Gibbons bouleversent le format standard de la chanson pour réagencer toute l'économie sensorielle des versions originales. Et dans leur laboratoire, les voix et les paroles, a priori si pures et si claires des divas disco, se retrouvent sans dessus-dessous, fragmentées, superposées, enchevêtrées. Comme ainsi dans ce formidable edit par Walter Gibbons d'une chanson de Gladys Knight and the Pips, It's a Better Than Good Time.
You're ready to try again. It's a better than good time.
faut bien souligner que le montage et remontage choral des performances vocales de Gladys Knight, comme de celles d'autres divas telles que Justin Brown ou Loletta Holloway, ne cherchent pas du tout à les déshumaniser. Les auteurs des édits sont tous fanatiques de ces chanteuses et de leurs tubes, mais souhaitent, pour ainsi dire, faire durer le plaisir, disséminer les stimuli, réécrire la narration musicale. Ils se permettent aussi parfois d'interpréter le sens des paroles sur le plan sonore, en accentuant par exemple la joie exprimée, ou au contraire en approfondissant le sentiment de solitude ou de perte. Ainsi, les espèces de flashbacks réalisés par Walter Gibbons sur cette édite d'It's a Better Than Good Time, qui semblent marquer le poids d'un passé douloureux dont Gladys Knight voudrait s'extraire pour renouer avec celui qu'elle aime. Ou encore, comme nous allons l'entendre sur l'édite de Lost in Music de Sister Sledge, les voix de des sœurs Sledge, produites par le groupe Chic, semblent littéralement s'égarer par fragments et échos tout au long du groove. La pratique de l'édit va se populariser au cours des années 80 pour devenir un passage obligé de l'industrie disco puis post-disco. À mesure qu'avance la décennie et les technologies, les voix fragmentées perdent un peu de leur humanité, elles se font plus tranchantes, plus agressives. Les années Reagan et la crise économique imposent une tension qui résonne dans ces voix de diva ou starlet remixées. Leurs syllabes cognent les tympans dans un mélange de rage et d'envie de faire la fête. La chanteuse la plus célèbre à témoigner de cette énergie étrange, c'est évidemment la new-yorkaise Madonna. And you can dance for inspiration. Come on. Depuis le début des années 80, les manipulations vocales s'effectuent grâce aux samplers, des machines surtout connues pour prélever des portions de disques déjà existants, mais qui permettent aussi de s'emparer d'un fragment de piste vocale qu'on vient juste d'enregistrer, puis donc de le retravailler. Avec l'émergence de la house à la fin des années 80 et l'arrivée de machines encore plus performantes, ce culte du détaillage vocal va connaître son âge d'or. Oh, Dans les clubs de New York ou du New Jersey voisin, l'ère post-disco a donc laissé la place au son de la house music, et en particulier à un sous-genre très dominé par les voix qui s'appelle le garage. Diva et Starlet travaillent évidemment avec cette nouvelle génération d'artistes qui s'appellent, entre autres, les Masters at Work, les Basement Boys, MK ou David Morales. Le principe est à peu près le même qu'à l'époque disco. Là où le vocaliste enregistre une chanson classique avec couplet et refrain d'une durée de 3 à 4 minutes, destinée aux radios, et puis les producteurs réutilisent les pistes vocales dont ils incisent les segments de leur choix. Ils les séquencent alors au sein de versions plus longues, parfois contemplatives, mais plus souvent frénétiques, comme ce remix du morceau I Can Get No Sleep des Masters at Work, chanté par India, puis remixé par MK. Bientôt, le succès en club de ces versions épiques attire les majors qui veulent elles aussi que leur star passe sur le billard de ces chirurgiens sonores. Au fil des années 90 et 2000, l'inspiration se tarira un peu et les édits pour les clubs se feront plus sages, ou du moins plus prévisibles. Mais les moments les plus audacieux de cette période marqueront l'esprit d'un jeune habitant du New Jersey du nom de Todd Edwards. Todd Edwards est un fan de house et de garage qui manque aucune émission de ses DJ préférés à la radio, mais qui ne sort pas beaucoup dans les clubs de Manhattan. Il faut dire que cet Italo-américain ne boit pas, ne consomme pas de drogue et qu'il est surtout très chrétien. Mais les manipulations vocales de la house, notamment celles de MK, le fascinent plus que tout car elles ont le pouvoir de réorganiser les syllabes et les mots. La plupart du temps, le résultat n'est qu'une suite d'onomatopées, mais lui voudrait leur faire prononcer des messages d'amour adressés à Jésus. Il se met donc à sampler des morceaux de soul ou de disco afin d'en isoler les passages qui l'intéressent. Il procède ainsi à des collages de fragments de différents artistes dont il distord l'élocution jusqu'à obtenir une créature de Frankenstein voué au culte du Seigneur. Le résultat est grisant. Les voix jaillissent telles des geysers, s'entrechoquent en toute fraternité chrétienne et sont parfois si transformées qu'elles énoncent des mélodies impossibles à reproduire par l'être humain. C'est une sorte de gospel, certes reconstitué artificiellement à partir d'enregistrements altérés, mais dont la vitalité augmentée par l'électronique offre une incroyable messe par procuration vécue sur le dance floor. Todd Edwards se fera connaître en France en répondant à une demande de remix de la part de Ludovic Navarre, un producteur house et pionnier de la French Touch sous le nom de Saint-Germain. Le morceau Alabama Blues que celui-ci propose à l'américain contient déjà des samples du bluesman Lightning Hopkins auquel Edwards va ajouter ses propres samples. Le résultat va devenir un classique que l'on croit en Dieu ou juste en la house music. We'll be right back.
bang on me. A static up in New York City. Why everything's fine. But everything in the city be wrong. Alabama.
On sait que Todd Edwards travaillera par la suite avec d'autres Français tels que Daft Punk, Surkin ou Parawan. Mais c'est surtout en Angleterre que ces productions si singulières vont résonner le plus fort, au point de faire émerger un genre musical tout entier qui voue un culte non plus à Jésus, mais à ses propres reconstructions vocales illuminées. À Londres, ses fans finiront même par l'appeler Todd the God, mais pour comprendre cette histoire, il faut revenir quelques années en arrière. En Grande-Bretagne, vers 94-95, le garage américain marche plutôt bien dans les clubs. Certains producteurs britanniques sortent des morceaux inspirés par leur modèle new-yorkais, qui parfois les adoubent. Mais ce garage à l'anglaise se distingue encore peu de ce qu'on entend outre-Atlantique. Puis, la scène voit soudain affluer de nouveaux danseurs et danseuses, des déçus des soirées jungle où le groove est en train de se refroidir. Les DJ garage se mettent alors à accélérer les disques qu'ils jouent en augmentant le bouton pitch de leur platine pour satisfaire les attentes de cette nouvelle fréquentation. En parallèle, ils se plongent dans la discographie de cet outsider de Todd Edwards qui, comme eux, aime les BPM élevés mais surtout montre ce don unique pour détailler et émincer les parties vocales. Et bientôt, toute une vague de producteurs garage va se convertir à l'évangile selon Saint Todd. On appellera d'abord ça le speed garage, puis le two-step garage, et enfin, plus simplement, le UK garage. Assez peu connu chez lui aux États-Unis, Todd Edwards est le premier étonné d'apprendre que des Anglais qu'il ne connaît ni Ève ni d'Adam disent avoir vu la lumière en écoutant ses disques. Il est bientôt sollicité pour de nombreux remixes et quand il vient jouer sur place est accueilli comme une divinité. De leur côté, ses disciples comme Dem 2, Steve Gurley ou Ramsey Hanfen, que nous écoutons ici avec Lindsay Moore, développent à leur manière sa science du découpage de samples. Ils évacuent sans méchanceté la dimension religieuse de sa démarche, mais en établissent le canon en l'enrichissant d'un groove un peu plus chaloupé. On retrouvera, et on retrouve encore aujourd'hui, un peu partout dans la pop et la musique électronique, ces vocaux fragmentés, porteurs d'une émotion si singulière, à la fois vivace et désarticulée. On pense au début de Kanye West avec ses samples de soul accélérés, mais aussi au groupe Pop House Disclosure, ou encore à un autre anglais, plus romantique et aujourd'hui installé à Los Angeles où il collabore avec des rappeurs, il s'agit de James Blake.
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her. Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her. Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Damn.
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Damn.
La durabilité des innovations vocales de Todd Edwards et ses apôtres montre à quel point la voix devient en ce début de 21e siècle l'enjeu majeur de la création électronique. Et il est temps désormais d'évoquer le principal instrument de cette révolution vocale déclenchée autour du Millennium. Nous voulons bien sûr parler de l'autotune. One more time. L'autotune est sans doute le fait musical le plus controversé de notre époque. Il dégoûte, voire révolte, toute une partie des mélomanes qui n'y voient qu'un funeste gadget destiné à détruire le travail de nos vrais chanteurs et chanteuses. On se souvient ainsi du scandale déclenché par One More Time de Daft Punk en 2001 et par l'effet robotique jugé de mauvais goût qu'il appliquait à la voix de son chanteur Roman Tony. Souvent confondu avec le vocodeur, l'autotune se démarque pourtant nettement de l'invention de Homer Dudley. Pour commencer, il a été conçu spécifiquement à des fins musicales. Il s'agit au départ d'un software de correction vocale. Son créateur est américain et s'appelle Andy Hildebrand. Ce mathématicien a longtemps été consultant pour le géant pétrolier Exxon. Il élaborait des algorithmes permettant de prédire les mouvements sismiques. Familier du phénomène sonore sur le plan scientifique, il est également flûtiste amateur. En 1989, il décide de monter, en marge de ses missions pour Exxon, sa propre affaire, Antares Audio Technology, au départ sans idée précise de ce qu'il veut y développer. Un jour qu'il déjeune avec ses employés, l'une d'entre elles lui dit qu'elle chante si faux qu'elle aurait bien besoin d'un logiciel qui la ferait chanter juste. Hildebrand ne trouve pas l'idée si farfelue et décide de lancer ses équipes sur l'élaboration d'un tel outil. En 1997, sort la première version de l'autotune. Et en 1998, le voici utilisé par les producteurs de la chanteuse Cher sur son tube Believe, qui va populariser, pour le meilleur et pour le pire, ce nouveau genre de voix synthétique. Une voix synthétique que Hildebrand n'imaginait pas que les artistes chercheraient à obtenir, mais qu'il trouve en exagérant volontairement les paramètres de transformation et d'élongation du son. C'est là l'un des plus fameux détournements techniques de l'histoire de la pop, qui va aussi être abondamment utilisé dans le rail, où il se prête très bien aux modulations des vocalistes, mais scandalise les puristes du genre. On raconte même que la télévision algérienne aurait tenté d'interdire les clips de chanteurs sous autotune, sous prétexte qu'ils mettraient en péril le patrimoine musical national. Mais les artistes locaux continuent d'user de ce logiciel avec un plaisir non dissimulé, comme ici par exemple Chep Bello. Ce premier détournement de l'usage de l'autotune va lui-même être doublé quelques années plus tard d'un second détournement. Officiellement, le logiciel est vendu par Antares Audio comme un instrument de post-production. Il est censé corriger un enregistrement déjà existant une fois l'interprète passé devant le micro. Sauf que certains de ces interprètes vont commencer à s'en servir pendant leur performance. Ils font cohabiter leur chant naturel et leur chant autotuné pour explorer, avec l'aide de leurs ingénieurs du son, des sonorités et tonalités inédites. Le pionnier de cette pratique de l'autotune en live est un rappeur devenu chanteur, originaire de Floride, qui se fait connaître autour de 2005 sous le nom de T-Pain.
T-Pain. Let me
Dans la scène rap, la trouvaille de T-Pain provoque un violent clivage. Certaines stars, comme Lil Wayne ou Kanye West, adhèrent à son usage de l'autotune sans hésiter. Mais d'autres, comme Jay-Z, s'y opposent farouchement et dénoncent son inauthenticité, jugée contraire aux valeurs de la rue. Le mari de Beyoncé sort même en 2009 le titre DOA pour Death of Autotune, qui condamne explicitement la technologie mise au point par Andy Hildebrand, qui n'en demandait pas tant. Mais le New Yorkais ne convaincra visiblement pas ses confrères de revenir dans le droit chemin. Au tournant des années 2000 et 2010, la quasi-totalité des artistes hip-hop ont recours ne serait-ce qu'occasionnellement à l'autotune. La star du rap français Booba s'y met en 2008 sur son album 09. Et à Atlanta, la nouvelle capitale du genre aux États-Unis, une foule de nouveaux talents se servent du logiciel avec une créativité que personne n'avait anticipée. C'est notamment le cas de Nevadius Demon Wilburn, alias Future.
You know, this just a real nigga shit, your real nigga story, you know what I'm saying?
This beat is so
true.
Ice like a bunch of narcotics.
There were.
Pull up in a new Rari. Living like John got it.
Come on.
Chopping bricks like karate. Drink a bunch of codeine. Serving to the dope fiends.
They smoke.
Blowing money, stay clean.
Free ride.
Michael Jackson, Billie Jean. Got a Panamera, Rana, young nigga hit.
Porsche.
Got a young bitch, pulling up in a V. Smoke a lot of Kush, and I have a lot of sick. Had to beat the grind up, ran up my chick.
Woo.
Bitch, a nigga get money, nigga get bad. Roll up, blow up, run it, nigga sell up, all the crack,
crack.
You can get a nigga line, all the what you want. I can whip a Maserati, pull it up, but don't
hold up.
50,000 on your watch, young nigga splurge. Pop a ace spade, bought a sipper out of
serve.
Keep a young nigga working at a bus of K. I'ma take a phone call, bust a every day.
What?
Ice like a bunch of narcotics.
There were.
Pull up in that new Rari. Living like John got it.
Come on.
Chopping bricks like karate.
Nous disions à l'instant que Jay-Z avait critiqué l'usage de l'autotune dans le hip-hop en ce qu'il compromettait l'authenticité et le réalisme dont la voix naturelle du rappeur devait être la garantie. T-Pain s'inscrivait dans une démarche plus proche du chant que du rap et ne visait en effet pas en priorité à retranscrire le quotidien des ghettos noirs américains. Future, lui, va réussir à renverser le cliché de ce son robotisé, séducteur mais plastique, en allant se plonger dans les dimensions les plus sombres qu'offre l'autotune à celui qui sait l'apprivoiser. Loin de simplement déviriliser l'artiste, le logiciel inventé par Hildebrand lui ouvre une profondeur d'âme nourrie de désespoir et de drogue chimique. Future se fond avec la machine et contemple avec elle le néant, puis revient l'âme ténébreuse, mais plus que jamais invulnérable, tel un cyborg.
When it's hot, turn to the city, I broke all the notch. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and ain't no false. We call them trusted cause they gonna chop.
Bien utilisé, l'autotune réussit donc à offrir au vocaliste comme une seconde personnalité, angélique ou démoniaque selon les circonstances. Il dessine dans la matière sonore des formes impossibles à obtenir naturellement, mais qui pourtant précisent certaines émotions et intensifient l'expérience esthétique. Le flow vocal des Migos, de Future, de Drake ou de Lil Wayne semble parfois jonché d'échardes ou d'éclats de diamants. Parfois, on le dirait aux prises avec une substance visqueuse et translucide. À d'autres moments, on croirait ni plus ni moins que la voix s'échappe du corps du rappeur qui la regarde filer. À un autre génie d'Atlanta, Young Thug, l'autotune laisse la liberté de décliner toutes les identités qu'il a en lui. Enfant, monstre, animal, homme, femme et tout ce qu'il y a entre. Il lui permet surtout de faire une musique habitée par une vie pas toujours joyeuse, mais qui en mêlant chant, rap, onomatopée, gazouillis, humanité et machinisme, fait de lui un artiste unique dans le paysage actuel.
I just
And man, the shit that it weedy can't smoke in the road, right? Wow, wow. I stepped up and cut up, I'm drinking, I chewed off the tires, huh? I'm in a coupe by myself. I had to kick a door when I was fine. Keep the awards on the shelf. Horses in round in the fan. I'm sick and tired of these young niggas act like they fine. They telling them lies. Acting like they the one created this and they get all this drip from that guy. Yeah, Cartier eyes, Cartier coke, Cartier has to watch. Cartier love, Cartier to die. Cartier spent buffalo on the side. Prison cut diamonds, they Cartier, yeah. Cartier bad for the Cartier thot. Sky ring look cool with 200 dash. Cartier jeans, ain't no way I can say. Ain't no way I'ma ever gon' go out. Man, I can't go out, no way I'm gon' go out. I just grip on her ass and I show out. I sit like a champ and I wait on her whole lot. I just whip up a new Chanel paddock. I whip it to breeze and I don't break the door out. Turn the whole top floor to a whole house. 100 racks and one two bought the flood out.
Depuis Booba, le rap français s'est donc lui aussi massivement converti à l'autotune. Il n'est peut-être pas aussi souvent bien utilisé, pardon, et dans certains cas efface même la singularité des personnalités au micro. Mais il a quand même donné de belles choses chez des stars comme PNL ou Jul, mais aussi chez des figures plus confidentielles mais non moins talentueuses telles que la rappeuse lyonnaise Lala Ace. Jeune franco-ivoirienne basée à Londres, Lala Ace fait partie, comme Future ou Young Thug, de ces rappeurs et rappeuses qui s'approprient à merveille l'autotune. Son timbre naturel, à la fois sensuel et éraillé, et sa capacité à chuchoter mélodieusement n'y sont forcément pas pour rien. Et là où ses confrères d'Atlanta ont l'air de flotter dans les ténèbres, Lala semble au contraire s'envelopper dans un halo de lumière et de rosée et parvient à façonner une empreinte vocale très garçon manqué. Une nouvelle preuve d'ailleurs que l'autotune sert particulièrement bien la fluidité des genres. Nous le disions en début d'émission, les technologies de modification vocale depuis Wendy Carlos ont toujours été animées par une tension entre les pôles masculin et féminin. On peut ainsi citer aujourd'hui nombre d'artistes électroniques trans qui, chacun à leur façon, s'aident de la technologie pour construire leur identité vocale, telles que la vénézuélienne Arca ou l'écossaise Sophie que nous écoutons en ce moment. Do I exist? Précisons par ailleurs que les voix numériquement transformées que vous entendez en 2020 ne passent pas forcément toutes par l'autotune. Les auditeurs le confondent parfois avec d'autres logiciels abondamment employés dans les studios tels que Melodyne, qui permet de sculpter chaque syllabe, chaque souffle avec une précision chirurgicale. Plus généralement, la voix semble être devenue, comme nous le disions, le principal terrain d'expérimentation de la pop musique au sens large. Certains artistes s'émancipent même des seuls logiciels musicaux pour faire appel à l'intelligence artificielle. Pour réaliser son dernier album Proto, sorti l'an dernier, l'artiste Holly Herndon a travaillé aux côtés d'un expert en algorithmes, avec lequel elle a conçu artisanalement, sur un PC suréquipé, une intelligence artificielle avec laquelle elle a, à laquelle elle a appris à chanter. L'américaine lui a fait enregistrer et traiter des heures de sa propre voix, mais aussi toute une chorale réunie pour l'occasion, ainsi que de nombreuses archives de chants traditionnels du monde entier. Le résultat, c'est un disque ainsi fondé sur le principe de machine learning, mais qui sonne pourtant extrêmement incarné. De Wendy Carlos et Laurie Anderson à Holly Herndon ou Sophie aujourd'hui, en passant par la masculinité instable des rappeurs et les élans des chanteuses disco découpées par les producteurs house, la question de la transformation vocale paraît donc intimement liée à celle du genre et de l'identité. On espère donc que les machines, dans ce contexte, contribueront par le biais de la musique à faire évoluer les mentalités. En attendant, elle nous offre à nous, auditeurs, un monde parallèle, peuplé de voix peut-être dépourvues de corps, mais en tout cas gorgées de vie, d'âme et de couleurs. On en veut pour preuve ce très beau morceau de l'américaine Imogen Heap, réalisé avec le logiciel Harmonizer, et sur lequel nous allons nous quitter aujourd'hui.
Where are we? What the hell is going? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and run.
Demain, il sera question de la vie secrète des machines, des fantômes qui hantent les bandes magnétiques et des dysfonctionnements et autres glitches qui ont bouleversé l'histoire de la musique électronique. Cette émission a été réalisée par Philippe Baudouin avec à la technique Sylvain Latu. Merci beaucoup à Simon Reynolds et Lucien Krampf. Très bon après-midi à l'écoute de France Culture.
Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the take-off.